This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. Là tout de suite, je vous parle des rues de Lyon où je prépare une émission prochaine.
Mais la plupart des épisodes de ce podcast sont enregistrés dans notre studio, le studio que nous avons baptisé Studio Virginie Despentes. Alors pourquoi avoir choisi ce nom, me direz-vous ? Et bien tout simplement parce qu'elle est, pour nous tous, une référence. Que sa liberté, sa puissance littéraire et les thèmes qu'elle porte, comme au hasard le féminisme, font partie des choses qui comptent pour nous. D'ailleurs, il y a quelques lignes essentielles de son livre King Kong Théorie que j'avais envie de vous faire entendre.
Il y a eu une révolution féministe. Des paroles se sont articulées, en dépit de la bienséance, en dépit des hostilités. Et ça continue d'affluer. Mais pour l'instant, rien concernant la masculinité. Silence épouvanté des petits garçons fragiles. Ça commence à bien faire. Le sexe prétendument fort, qu'il faut sans cesse protéger, rassurer, soigner, ménager. Qu'il faut défendre de la vérité. Que les femmes sont des lascars comme les autres, et les hommes des putes et des mères, tous dans la même confusion. Il y a des hommes plutôt faits pour la cueillette, la décoration d'intérieur et les enfants au parc, et des femmes bâties pour aller trépaner le mammouth, faire du bruit et des embuscades. C'est chacun son terrain. L'éternel féminin est une énorme plaisanterie. On dirait que la vie des hommes dépend du maintien du mensonge. Femme fatale, bunny girl, infirmière, lolita, pute, mère bienveillante ou castratrice. Du cinéma, tout ça. S'affranchir du machisme, ce piège à con ne rassurant que les maboules. Admettre qu'on s'en tape de respecter les règles des répartitions des qualités. Système de mascarade obligatoire. De quelle autonomie les hommes ont-ils si peur qu'ils continuent de se taire, de ne rien inventer, de ne produire aucun discours neuf, critique, inventif sur leurs propres conditions. Le féminisme est une aventure collective, pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche. Une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air.
Pour toutes ces raisons, et aussi pour fêter le fait que cet épisode est déjà le 100e, et pour coïncider avec le démarrage de l'adaptation à la télé de cette trilogie Vernon Subutex, on a eu envie de lui adresser notre question rituelle. Qui êtes-vous, Madame Despentes ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Première étape, évidemment, les débuts, l'époque où Virginie Daguet va devenir Virginie Despentes. Elle est née à Nancy en 1969. Elle a vécu des années assez épiques dans le milieu punk, des petits boulots, des piges occasionnelles, beaucoup de musique, un peu de prostitution aussi, comme elle l'a raconté elle-même plus tard. Ce début de vie mouvementé, il va alimenter en partie son premier roman, Baise-moi, marqueur essentiel de son œuvre, refusé par de nombreux éditeurs, jusqu'à ce que le manuscrit atterrisse sur le bureau de notre premier invité, Florent Massot, qui à l'époque, comme aujourd'hui, dirigeait une petite maison qui porte son nom.
En fait, plus que dans mon bureau, c'est dans mon lit même qu'il est arrivé. Ouais. Parce que je me souviens, je l'ai lu, j'habitais dans une chambre de bonne. Et bon, cette chambre de bonne, il y avait un lit. Hein, il n'y avait pas beaucoup de meubles autour. Donc, j'habitais dans mon lit. Et je me souviens très bien quand je l'ai pris en main, avec marqué « Baise-moi », avec une écriture un peu à la tag graffiti. Je me suis dit « Ouais, quand même, avec un titre comme ça, ça a intérêt d'assurer le contenu ». Et puis même, ouais, ok, un peu trash, le truc graffiti tag. Moi, j'étais à fond là-dedans, hein, j'étais dans le graffiti, dans le tag. Donc, je me disais, ouais, quand même, là, il va falloir qu'elle assure. Hein, parce que, bon, et puis j'ai commencé à tourner les pages et je me suis dit, ouais, quand même, ouais, c'est bien. C'est à la hauteur, c'est à la hauteur du titre, j'ouvre, oui. Voilà, donc je me souviens très bien de ce moment où je tourne les pages et effectivement, je me dis, waouh. Et en fait, mon impression, c'était... C'est un phrasé, un rythme de ma génération, puisqu'on est de la même génération. Moi, j'étais un jeune éditeur et elle, jeune auteur. Et je me disais, ouais, c'est le phrasé un peu de notre époque. Mmh. Il y a une espèce de rythme, une couleur de notre époque. Et c'était la première fois que je lisais ça en France. Il y avait des auteurs peut-être anglo-saxons, mais en France, c'était la première qui trouvait une espèce de correspondance littéraire au son de l'époque, un phrasé, avec un vocabulaire aussi, une sorte d'argot aussi contemporain, sans tomber dans les clichés, justement. C'était pas genre, je fais un texte en verlan, quoi. Parce qu'à l'époque, il y avait le verlan. Et donc, il y avait cette couleur, cette teinte, ce côté rock un peu, mais aussi punk, un peu rap, un peu tout ça. Donc, je me souviens très bien de ce goût au bout de la langue, comme on se souvient un peu d'un vin, d'un cru, là, je me souviens de cette lecture, ouais, effectivement.
Une fois le choc de la lecture passée, de la découverte, qu'est-ce qui s'est fait ensuite, comment la rencontre après la rencontre littéraire s'est faite?
J'étais à la terrasse d'un café, donc j'étais arrivé un peu avant elle, et je l'ai vu arriver, traverser. Donc en plus, à l'époque, il n'y a pas les Facebook, Instagram, Internet qui permettent de voir un peu à quoi ressemblent les gens. Donc je ne savais pas du tout à quoi elle ressemblait. Et j'ai vu cette grande fille comme ça arriver et qui a traversé le boulevard Saint-Germain pour arriver à la terrasse. Et là, bon, c'était une très belle rencontre. Je pense que voilà, on était en confiance l'un l'autre. On a montré chacun qu'on peut. On pouvait se faire confiance, parce que je pense que pour elle, il y avait quand même une sorte de blessure à avoir été refusée par beaucoup de maisons d'édition. Une espèce d'incompréhension, se disant, mais pourquoi, en fait, mon texte est tant refusé? Enfin bon. Et à la fois une acceptation, peut-être. Elle s'était dit, bon, peut-être que ma carrière va être plus dans la musique que dans les livres. Je pense qu'elle pensait à l'époque ça. Et puis, tout à coup, voilà, moi qui était aussi dans la musique, mais qui lui dit, écoute, je suis aussi dans la littérature et je reconnais ton talent littéraire. Et je crois que c'était un beau moment. Elle était contente de voir qu'on pouvait partager ça et puis que c'était une petite structure indépendante, parce que c'est quand même quelqu'un qui venait plus des indés. Donc, moi, j'étais un peu comme un label, en fait, en musique. Donc, il y avait une vraie cohérence, en fait, à travailler ensemble. Donc, la confiance s'est très vite installée entre nous.
Donc, à la sortie de Baise-moi, son arrivée en librairie, comment il est reçu, le livre, à l'époque?
Ah, très, très bien. Vraiment, là, on se fait jeter des librairies. Mais bon, on l'avait un peu anticipé, parce que quand même, je voyais bien que dans nos courants un peu underground, c'était pareil dans le graffiti, dans le rap. Moi, j'avais fait des bouquins sur... les premiers livres sur le graffiti, pareil, Ton car, Sabotage. Et alors, bon, c'était accueilli par certains, mais mal par d'autres. Oui. Et donc là, je me disais, bon, Baise-moi, c'est pas évident que ça soit bien accueilli. Donc j'avais pris le parti de pas l'envoyer à la presse particulièrement, et de l'envoyer plutôt à des fanzines. Enfin, c'était en discutant d'ailleurs avec Virginie, c'était une idée qu'on avait partagée ensemble, de dire, on va pas l'envoyer aux titres traditionnels, parce qu'ils vont raisonner exactement comme les éditeurs classiques, ils vont le rejeter, ils vont dire, c'est pas de la littérature... Patati patata. Donc, on l'avait envoyé aux journaux, aux fanzines à l'époque. Bon, c'était un peu comme les blogs aujourd'hui. C'était les journaux de rock, beaucoup, qui tiraient à 200, 300 exemplaires, qui étaient plutôt régionaux. Et à Metz, à Nancy, à Montpellier, à Toulouse, des journaux vraiment ancrés dans une culture un peu rock, punk. Ouais. Et qui ont tout de suite... je sais qu'on a eu un taux de retour incroyable de cette presse-là. Puisque d'abord ils n'avaient pas l'habitude de recevoir des livres en service de presse, et ensuite ça collait parfaitement avec leur culture aussi, donc du coup c'est un livre qui a dû être chroniqué dans 30 fanzines. Et alors, comme les journaux un peu classiques, ils cherchent tous, c'est un peu comme aujourd'hui, on va chercher sur internet un peu toutes les nouvelles tendances, là à l'époque les journaux rock, les rock et folk, Best, etc., qui étaient les journaux plus classiques distribués en kiosque, ils regardaient les fanzines pour choper les nouveaux groupes et tout. Oui. Donc tout à coup, c'est quoi ce livre qui est chroniqué dans 20 fanzines? Donc c'était un truc un peu incroyable. Donc on a commencé à avoir des demandes, où ils sont allés même l'acheter en librairie. Et puis voilà, c'est des journalistes comme Patrick Eudeline ou Laurent Chalumeau qui ont été les premiers de la presse classique un peu à commencer à reconnaître une vraie qualité dans le travail de Virginie. Et au niveau librairie, moi j'étais autodiffusé, donc je faisais du porte-à-porte avec mon sac à dos et mon vélo. Et donc, je proposais au libraire, je disais, c'est un texte, ça s'appelle Baise-moi. En plus, on avait une couverture, c'était Number Six qui était un graffeur qui avait fait la couverture. c'était volontairement très provocateur, puisque c'était la scène dans la boulangerie où, en fait, il y a une balle perdue qui tue un enfant. Et donc, la couverture, c'est le cerveau de l'enfant qui explose. Bon, c'est une scène assez incroyable. Et alors, bon, les gens, ils disaient « Non, mais il est hors de question qu'on vende ça, etc. » Puis, c'est pas de la littérature. Donc, je me faisais jeter un peu de partout. Sauf que, bon, bah... Alors, bon, ça... Ça a mis un an avant de vraiment marcher. Oui. C'est-à-dire qu'entre la sortie et le décollage vraiment du livre, on a vendu 1 500 à 2 000 exemplaires sur un an. Et puis 40 000 en 15 jours. Donc, donc c'est, la montée en puissance a été fanzine, presse rock, presse quotidienne qui lit la presse rock, donc les Libés, les trucs comme ça qui lisent beaucoup les rock et folk et autres, ou qui viennent souvent de cette presse-là. Et puis ensuite, c'était le câble. À l'époque, c'était les premières chaînes les 6 chaînes classiques, donc c'est Paris Première, je crois que c'est Ardisson qui commence à en parler sur son Paris Dernière, et puis de fil en aiguille, voilà, Canal Plus nous appelle, donc la grande émission de l'époque culturelle, parce que là on est en plein dans le grand décollage de Canal Plus qui représente vraiment la télé d'une génération. Et là, la programmatrice m'appelle et elle me dit, bon, écoutez, on pense que Virginie, ça colle complètement avec l'image Canal. Ça, on a pas un auteur qui colle plus. Donc voilà, la question qu'on veut vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable de diffuser des bouquins? Parce que quand elle va passer, on pense que ça va être un énorme succès. Ouais. Et donc, on veut bien l'inviter, mais il faut que vous vous engagiez à imprimer vraiment. Alors moi, j'étais très, très juste financièrement, mais je me suis dit, bon, bah, je fais le pari. Donc, j'ai appelé un imprimeur, j'ai dit, bon, imprimer 10 000 exemplaires, et puis pour être sûr de livrer. Bon. Et Virginie est passée, c'était mi-décembre, je crois, 95, si je ne me trompe pas, donc juste avant Noël, et là, bon, elle fait une super prestation. C'est-à-dire que sa prestation a été très bien perçue par le public, parce que c'était un peu... Elle n'était pas à l'aise, elle était un petit peu gauche et tout ça. Et en fait, le public pouvait s'identifier à elle. Oui. Que j'avais beaucoup de retours de gens qui disaient ben « Moi, si je passais dans cette émission, je serais comme elle, en fait. Oui. » Et donc, ce n'était pas du tout contre-productif. Au contraire, c'était quelque chose de très positif. Ce n'était pas la machine à promo qui fait toutes les télés et qui sait exactement manier la communication. Oui. C'était une fille qui vient un peu peut-être de province, voilà, qui n'a pas les codes forcément de la société, tout ça, qui vient un peu de l'underground, qui vient d'ailleurs. Et ça avait beaucoup plu, justement, au public qui se reconnaissait. Donc, il y a tout de suite eu... Là, il y a eu une connexion au-delà peut-être, justement, du côté underground, mais plutôt dans le côté humain, sensible, avec un public qui est beaucoup féminin, qui s'est retrouvé, en fait, dans cette... voilà, comme une porte-parole, en fait, d'une certaine population, en fait. Et du coup, là, ça a explosé. Et moi, bon, j'étais pas du tout organisé pour vivre le succès. Donc, c'était complètement dément parce que j'avais des commandes à l'époque. Les commandes arrivaient par fax. Et donc, le fax, en fait, imprimait des commandes sans arrêt. Parce que faut comprendre, 40 000 exemplaires, c'est, je sais pas, c'est des milliers de librairies qui vous envoient des commandes. Et puis, alors, comme ils savaient pas trop si j'étais solvable, notamment la Fnac, commandé par... ils avaient comme ordre de jamais commander plus de 100 exemplaires. Parce qu'ils se disaient, bon, c'est une petite structure et tout ça, faut pas qu'on... Et puis, ils savaient pas trop non plus si ça allait marcher. Et donc, en fait, ils vendaient les 100 tous les jours. Donc, ils me recommandaient 100 exemplaires tous les jours. Et moi, notamment sur les Fnac parisiennes, je le livrais à vélo moi-même. Et donc, tous les jours, je faisais Fnac Forum, Fnac Saint-Lazare, Fnac Montparnasse... et je disais, vous pouvez pas en prendre 200, comme ça fera un jour sur deux. Et ils me disaient... Non, on a hors de la direction, on peut pas en prendre plus. Et tous les jours, paf, ça partait. Donc je relivrais. Et à un moment donné, j'étais épuisé. Et parce que je me disais, mais je vais pas m'en sortir, je sais pas comment je vais faire. D'ailleurs, j'ai même envoyé des livres sans même envoyer les factures. Parce que mon obsession, c'était de dire, je veux pas qu'un lecteur ne puisse pas être livré ou fourni. En plus, à l'époque, il n'y avait pas Amazon. Il n'y avait pas ce genre de vente... Sur Internet, donc il fallait vraiment fournir tout le temps. Et donc, il y a des moments où j'envoyais même pas les factures. Donc, je me disais, bon, avant tout, il faut que le livre ait le bouquin. Après, bon, l'argent, on verra.
Mmh.
Virginie Despentes est lancée, désormais bien identifiée comme une autrice à suivre. Elle va remettre une pièce dans la machine à scandale en se lançant elle-même dans un chantier des plus épiques, l'adaptation au cinéma de Baise-moi. C'est un roman en soi puisque le film co-réalisé par Despentes a suscité une avalanche de polémiques. Étant donné son contenu très hard entre les scènes de sexe et de violence, sa sortie a été chaotique. D'abord interdit aux moins de 16 ans, il a vu son visa d'exploitation annulé, il s'est retrouvé classé X comme un porno et donc sorti de fait du réseau de distribution classique avant de faire jurisprudence carrément en inaugurant une interdiction aux moins de 18 ans sans classement X. En parallèle, Virginie continue évidemment d'écrire, elle accumule les récompenses littéraires, prix de Flore, prix Renaudot, et finit même par rejoindre au tout début de l'année 2016 le jury du prix Goncourt, et on y reviendra plus tard. Par ailleurs, elle se lance une nouvelle fois dans l'adaptation de son propre travail, en réalisant la version cinéma de son livre Bye Bye Blondie, c'était en 2014. Au casting, Emmanuel Béart et Béatrice Dalle, et avec cette dernière, c'est un coup de cœur mutuel et une amitié profonde qui démarre. Aujourd'hui, toutes les deux se retrouvent régulièrement ensemble sur scène pour des lectures de Pasolini, notamment avec le groupe Zéro, des performances à l'image de Despentes, littéraires et électriques. Et j'ai passé un petit coup de fil rapide à Béatrice Dalle pour qu'elle nous dise un mot de sa copine Virginie.
Moi, je peux parler d'elle, évidemment, comme tous les gens qui la connaissent, qui admirent son travail, qui connaissent son travail. En tout cas, elle véhicule des idées de liberté, de respect des autres, de t'as le droit d'être comme tu veux, du moment que t'atteins pas l'intégrité physique ou morale de quelqu'un, t'es respectable. Après, ta couleur, tes choix religieux, tes choix amoureux, ils regardent que toi. Et déjà pour ça, ben, je trouve que c'est des femmes comme elles qui font avancer les choses. En deuxième position, je mettrais, c'est ma meilleure copine. Et quand je pars avec elle, là, on va faire notre on tournera en 2020 avec notre troisième projet ensemble. Et moi, je pars en colonie de vacances quand je pars avec Virginie.
C'est vrai.
Je pars avec Virginie. Bah ouais. Tu vois, moi, c'est ma copine, donc j'ai une autre relation.
Ouais.
Et toute l'admiration qu'a fait que c'est devenu ma copine et ma meilleure amie. Et aussi les moments intimes qu'on partage toutes les deux où je pars en colo. Là, j'étais 10 jours avec elle à Vannes pour un nouveau spectacle. Moi, je voudrais travailler tous les jours dans ces conditions. Tous les jours de toute ma... Ouais, vraiment.
Et comment vous l'avez rencontrée? Vous vous souvenez de la première rencontre avec elle?
Écoute, moi, je me souviens des premières rencontres où c'était quand elle préparait, elle voulait tourner Bye Bye Blondie.
Ouais.
Et déjà, on a sympathisé, on s'est bien entendu, on a tourné le film et on se voit tous les jours, quoi. Hier, jusqu'à hier, on était ensemble hier soir et je pense qu'on sera ensemble ce soir aussi, quoi. On passe vraiment beaucoup de temps ensemble. C'est pas comme ça une petite relation. On est copines, on s'aime bien, on se respecte mutuellement. Non, non, c'est vraiment ma pote, quoi.
Et l'idée de monter sur scène ensemble, c'est venu comment? C'est né de discussions, d'envie commune, de faire quelque chose ensemble, justement, enfin de continuer à bosser ensemble après Bye Bye Blondie?
Écoute, c'est moi qui suis allée la voir. Elle faisait sur scène qu'à la Ferte avec Les Zéros. Waouh, j'ai trouvé ça magnifique, ses lectures, c'est une chanteuse, c'est un métronome, c'est sa manière de dire le texte. Et c'est elle donc qui m'a proposé de faire on lui donnait une carte blanche, c'était il y a 2 ans, et de rendre hommage à Pasolini qu'on aime infiniment l'une comme l'autre et comme les Zéros aussi, quoi.
Je crois savoir qu'il y a aussi un truc qui vous unit, c'est l'amour de la musique. Il y a pas mal de choses que vous partagez de ce point de vue-là.
C'est ouf, je te jure, l'amour de la musique. Et je me souviens, je sais plus, je crois que c'était Philippe Manœuvre qui avait dit un truc comme ça, comme on est aussi copines avec Asia Argento. Ils avaient dit, si on réunissait tous les mecs avec qui elles ont été, mais attention, des musiciens de ouf, de rock, on ferait le meilleur groupe du monde. Et il avait pas tort, le mec, je te jure, il avait pas tort.
La mobilisation autour du film de Virginie Despentes. Dans un premier temps, le film avait obtenu son visa d'exploitation assorti d'une sévère mise en garde pour les spectateurs et d'une interdiction aux moins de 16 ans. Mais le Conseil d'État, saisi par l'association d'extrême droite Promouvoir, a jugé que le film devait être classé X au nom de son caractère pornographique et au nom des incitations à la violence qu'il contenait. Pourtant, certains exploitants font de la résistance et maintiennent le film à l'affiche, même s'ils n'en autorisent l'accès qu'aux plus de 18 ans.
Depuis Baise-moi, il y a évidemment eu plus d'un tournant dans la vie de Virginie Despentes. Des changements personnels, puisque, comme elle l'a dit elle-même, elle s'est découverte lesbienne à 35 ans, mais aussi des changements artistiques, avec l'arrivée dans son œuvre d'un personnage, Vernon Subutex, héros d'une trilogie à grand succès. C'est à l'époque de la sortie du dernier tome que notre dernier invité la rencontre, Laurent Tello. Il est journaliste au Monde, il a signé un long portrait de Virginie Despentes dans M, le magazine, et signe que le statut de l'autrice a bel et bien changé, il l'appelle même le phénomène.
Bah oui, c'est le phénomène parce que en fait, il y a deux phénomènes concomitants qui la qualifient de phénomène à ce moment-là. C'est qu'elle sort le tome 3 de Vernon Subutex, qui était très attendu, plus d'un an d'attente pour les fans et même pour les autres, parce qu'elle en a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est le moment où elle devient jurée du prix Goncourt. Voilà. Donc pour une punk de Nancy. qui parcourait la France avec les berruriers noirs, il y a eu un petit gap à franchir. Mais qu'elle a franchi, je pense, avec... je vais pas dire avec délectation, mais avec... elle en a tiré une certaine fierté, je pense.
Vous racontez d'ailleurs qu'ils sont un peu inquiets à son arrivée, on va dire, au concours. Ils la regardent un peu comme une curiosité. Ils se demandent si elle va pas foutre un peu le bordel dans le jury. Et pas du tout. Elle est très sérieuse, studieuse.
En fait, ils s'attendaient à une espèce de furie, un peu de Béatrice Dalle, écrivaine, un peu incontrôlable et je vais pas dire une harpie, mais ouais, un peu une punkette, quoi, un peu. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'elle parle tout doucement, donc ils n'entendent même pas ce qu'elle dit. En fait, il faut lui faire répéter. Elle est très timide, donc elle parle doucement, mais en fait, elle parle peu aussi. Donc, elle ne la ramène pas du tout. Ce n'est pas du tout une grande gueule. C'est plutôt une fille plutôt réservée, qui n'est pas à l'aise dans ce milieu-là. Donc, elle est à la fois pas à l'aise dans ce milieu-là, et puis encore une fois, elle a cette fierté d'y être intronisée, en fait. Donc, c'est un peu un contraste.
Comment elle a vécu, on parlait de ce changement justement de statut, donc ce passage de un peu l'électron libre, l'icône underground, à une figure assez essentielle, une espèce de gentrification littéraire quelque part, un peu malgré elle. Comment est-ce qu'elle l'a vécu? Comment est-ce qu'elle en parle? Elle vous en avait parlé d'ailleurs?
Alors pas trop, parce que j'en ai pas vraiment parlé avec elle. Si je me souviens bien, c'est parce qu'en fait... Moi, je l'avais interviewée à un moment où elle était en fin de promo. J'étais le dernier. Elle était juste tellement épuisée qu'en fait, j'ai eu un peu pitié. Donc, en fait, j'ai parlé davantage de ça, de ce changement de statut et d'univers, hein, avec ses proches, avec les gens qu'il aime bien. Et notamment avec un type qui s'appelle Laurent Chalumeau, qui est journaliste à Rock et Folk, qui était très inquiet, en fait, d'un hypothétique embourgeoisement et en fait pas du tout. Encore une fois, je pense qu'elle le vit bien parce que elle accède à une, je vais pas dire une notoriété, mais une crédibilité littéraire qui, je pense, était hyper importante pour elle parce que ça a été très compliqué pour elle au début comme moult écrivain. Donc cette crédibilité littéraire, je pense que vraiment elle l'a vécue de façon pleine et entière. En revanche, sur la notoriété, Alors, ce n'est que mon avis, hein, mais j'ai pas l'impression que c'était quelque chose dont elle était avide et elle n'était pas en quête. Elle n'était pas en quête de ça. Voilà. Moi, j'ai l'impression en plus que une fois qu'elle a terminé la promo, qui est contrainte, enfin qui est exigée par la boîte d'édition, elle va se carapater ou alors elle fait une tournée avec sa copine Béatrice Dalle. Mais elle n'est pas sur les plateaux télé. Elle n'est pas. Voilà, si on peut résumer la façon dont elle a vécu ce changement de statut, c'est vraiment une satisfaction très profonde de son enracinement littéraire dans le paysage français. Mais je pense que ça va pas beaucoup plus loin. Je pense que la notoriété, c'est pas que ça lui fait ni chaud ni froid, mais je pense que ça lui pèse plus qu'autre chose, quoi. Oui. Ouais.
J'accueille Virginie Despentes. Évidemment, le morceau de Kurt Cobain illustrait le titre de votre livre, Virginie, qui s'appelle Teen Spirit. C'est votre quatrième roman et vous le publiez chez Grasset. Ça va?
Ouais, j'ai une bonne tête, ça va.
Ça va, non?
Ouais,
ça va. Dites-moi, Virginie, vous êtes en bourgeoisie ou non?
Par rapport à l'époque de Besançon, ouais, clairement. Ouais. C'est pas vraiment la même vie, quoi.
Moi, il y avait un truc qui m'avait épaté parce que j'en avais beaucoup parlé avec son éditeur notamment et son agent. Moi, quand je l'avais vue, en fait, apparemment, c'était la première fois où elle pouvait s'acheter un appart, en fait. Oui. Moi, ça m'avait paru étonnant, mais bon, apparemment, c'était la réalité. Donc, elle avait de l'argent, elle avait de quoi s'acheter un appartement. Et en fait, elle avait des exigences pendant la promo. Par exemple, elle ne veut pas voyager elle exige de ne pas voyager en seconde et en première. Mais en fait, je suis sûr que ça n'a rien à voir avec des exigences de diva ou de starlette. C'est un truc de prolétaire, dans la mesure où ses parents ont bossé à la poste. Et à partir du moment où elle fait une promo qui, en fait, l'emmerde mais elle n'est pas payée plus, donc elle a des exigences qui, enfin, c'est un peu, c'est pas la lutte des classes, mais ce sont des exigences de gens qui ont gagné peu d'argent au début de leur vie, quoi.
Vous le disiez, Laurent, vous êtes allé chez elle, la rencontrer. Ça ressemble à quoi, son univers ?
Ben, en fait, c'est un quartier, moi que j'aimais, mais que c'est un quartier vraiment à la fois bobo et populo. C'est, alors, je ne peux pas donner l'adresse, évidemment, mais c'est tout près des buts de Chaumont, entre l'avenue Simon Bolivar et la rue des Pyrénées. Enfin, c'est un prolongement. C'est un immeuble parisien de ces quartiers-là, du nord de Belleville, pas top, quoi. Et je me souviens, c'est du faux parquet, mais on voit bien que c'est du faux parquet. Je pense qu'il y a du... Oui, si je me souviens bien, il y a du lino dans la cuisine. Enfin, franchement, je pense... Enfin, c'est pas... On n'est pas chez l'écrivain à succès de Saint-Germain-des-Prés, quoi. Bon, après, Houellebecq habite dans une tour du 13e, mais je pense que... Alors, je ne sais pas si chez Houellebecq, c'est une posture, mais en tout cas, chez elle, ce n'est pas une posture, quoi. Elle est contente d'aller promener son chien au but de Chaumont quand elle est à Paris. Et son univers, c'est des bouquins partout. C'est son chien qui court partout dans la pièce principale qui n'est pas immense. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a un contraste entre... entre cette écrivaine qui est devenue quelqu'un d'important et d'un peu rockstar, quoi, dans son genre, et c'est un peu un cliché. Donc, et puis, cette, son univers où elle s'habille normalement, et elle habite dans un truc normal, et, mais c'est un contraste, mais qui n'est pas non plus dénué de mystère, quoi. J'ai pas réussi à trouver la clé de savoir si cette femme était... c'était embourgeoisé ou pas, en fait. Je reviens à ce que disait Laurent Chalumeau, il avait cette peur-là, mais c'était plus une peur de... artistique, comme un boxeur qui devient champion du monde et qui n'a plus de jus, quoi. Yeah. Il a cette peur-là. Bon, peut-être qu'il ne l'a plus, mais quand on avait parlé il y a un an et demi, il avait cette crainte-là qu'après on lui dise « Écoute, ma cocotte, c'est bon, t'as donné tout ce que t'as donné, t'as fait ta rebelle pendant 20 ans, mais maintenant tu remballes tout et terminé, quoi. »
Nouvelle étape en vue pour Dépente, même si elle n'a suivi sa fabrication que de loin, l'adaptation en série télé de Vernon Subutex, en attendant évidemment un retour de Dépente en librairie, qu'on guette tous avec attention. En attendant, lisez ou relisez ses livres, ça peut assurément pas vous faire de mal, au contraire. Merci à Florent Massot, Béatrice Dalle et Laurent Tello pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée, laissez-nous 5 étoiles si cette appli n'est autre qu'Apple Podcast, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller, et à demain pour un nouvel épisode.
Binge. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.